Dans un entretien de 1992, 2 ans après la parution de Voyage de noces, Patrick Modiano dit: À chaque livre, je me débarrasse de quelque chose qui m'encombrait pour écrire quelque chose qui me satisfera entièrement. Mais une fois qu'on a écrit un livre, on ne peut plus revenir sur les choses dont on a parlé. Alors, c'est un nettoyage par le vide. Pourtant, il reviendra sur l'histoire ayant inspiré le roman de 1990 avec Dora Bruder en 1997. Le nettoyage n'aura donc pas été aussi exhaustif. La satisfaction n'aura pas été entière. Pourquoi peut-elle retourner? Les deux livres ont la même origine, une rubrique de journal datée du 31 décembre 1941, sur laquelle Modiano est tombé par hasard à la fin des années 80. Mise côte à côte, la version de Voyage de noces, ici à gauche, apparaît comme une sorte de succès d'année de la version du Paris Soir, avec quelques modifications, dont entre autres l'adresse qui, du 41 boulevard Ornano, passe au 39 bis du même boulevard. 39 bis, un peu plus que le 39, mais pas encore tout à fait le 41. Erzatz de 41. L'histoire de Voyage de noces a donc fait office de remplacement à l'histoire bien réelle de la petite Dora Bruder. Histoire incomplète et demeurée tout à fait inaccessible jusqu'à ce que Modiano s'attelle à une recherche d'archives et de témoignages, facilitée entre autres par Serge Glasfeld, l'avocat et historien à l'origine du mémorial de la déportation des Juifs. Par souci de clarté, je dirais Dora Bruder pour parler du livre de Modiano et Dora Toukou, si je puis dire, pour parler de la jeune fille en question. On peut donc dire de Dora Bruder, le texte, et d'autres l'ont souligné avant moi, qu'il s'agit d'une stèle, d'un lieu de mémoire où se joignent l'absence des corps et la présence des mots. Ce faisant, il y a assurément un désir de préservation de la mémoire des disparus, et j'ajouterais même le désir de ne pas les fondre en une masse compacte, les disparus, mais bien de reconnaître la singularité de l'expérience qu'ils ont faite de la barbarie. Pour ce qui nous occupe ici, ces disparus sont Dora et ses deux parents, Ernest et Cécile Bruder. Ainsi, après le roman Voyage de noces, il y a donc eu une certaine insatisfaction, voire une certaine gêne à l'égard de la fictionnalisation d'une telle histoire. Le nettoyage par le vide, pour reprendre les termes que Modiano utilise, n'aura pu se faire à la première tentative. En reconnaissant qu'une fiction close ne pouvait répondre à un devoir de mémoire ouvert, Modiano a vraisemblablement perçu l'illusion soulignée par Paul Ricoeur dans Troisième tour de temps et récit. Illusion contre laquelle le philosophe met en garde. Ricoeur dit: Dès lors que l'idée d'une dette à l'égard des morts, à l'égard des hommes de chair à qui quelque chose est réellement arrivé dans le passé, cesse de donner à la recherche documentaire sa finalité première, l'histoire perd sa signification. Avec le récit de 1997, ce vide de sens est comblé par la défictionnalisation de l'entreprise littéraire du roman de 90 et par le maintien à vif de l'idée de dette à l'endroit de l'homme. Le manque d'informations, les trous de mémoire, les blancs historiques sont compensés en partie par une implication directe de la subjectivité de l'auteur. La biographie fragmentaire de Dora se devra en effet d'une autobiographie modianienne, soucieuse de son rôle, soucieuse autant de ses capacités que de ses incapacités. Cette autobiographie suit essentiellement deux axes temporels. Le premier, celui du souvenir ou des souvenirs de jeunesse, permet à Modiano d'effectuer des rapprochements personnels avec la fugue parisienne de Dora, sa vie possible sous l'occupation, ses arrestations et sa disparition. Le second axe temporel, celui de l'enquête elle-même, relate les démarches entreprises par Modiano pour accéder aux archives, ou confirmer ou infirmer tel événement, telle hypothèse, tel point de détail. La nature fragmentaire des renseignements qu'il récolte ne devient alors pas tant un défaut qu'une qualité. Certes, il reconnaît pleinement le caractère ouvert et incomplet de son entreprise. Il dira « En écrivant ce livre, je lance des appels comme des signaux de phare dont je doute malheureusement qu'ils puissent éclairer la nuit. Mais j'espère toujours. » Ces appels, pour avoir un sens, doivent se sortir de la seule lumière éblouissante, si je puis dire, et être intermittents. L'hélice, le blanc et le silence sont d'ailleurs des traits qui traversent l'œuvre de Modiano et qui sont autant de manifestations de l'état morcelé de la mémoire, du pouvoir du non-dit et de la portée de l'indécis. Or, bien que l'hélice soit souvent utilisée dans Dora Bruder, cette incapacité devient plutôt un moteur permettant de surmonter la fragmentation et outrepasser le silence en lui ajoutant une plus-value à laquelle la fiction n'a pas nécessairement accès. Dans ce qui suit, je proposais donc d'aborder le récit de Modiano sous un angle productif plus que constatif, et ce, en ayant pour point anodal l'évocation. Je chercherai alors à voir ce que nous dit le texte plutôt que ce qu'il nous cache. Je chercherai à comprendre comment le texte fait deux pas en avant pour un pas en arrière, hésitant toujours à extrapoler sur les possibles actions, possibles pensées et possibles impressions de dehors. En effet, dans Dora Bruder, la démarche de Modiano se fait davantage sur le mode de l'évocation que sur celui de l'extrapolation. Extrapolation qu'il a par ailleurs mise pleinement en pratique dans le roman de 1980. Modiano franchit un point décisif supplémentaire qui redonne à l'histoire sa signification, pour reprendre les mots de Ricoeur, et ce grâce à l'évocation. Entendons par le terme d'évocation la survenance actuelle d'un souvenir, pour citer Ricoeur. Modiano mettra à profit ses souvenirs, ses propres expériences de Paris et les témoignages qu'il a pu entendre sur l'occupation, et confrontera le tout aux documents d'archives, registres de police et autres mentions écrites de l'existence de Dora. Dès lors, dans Dora Bruder, l'évocation a une fonction déclarative davantage qu'affirmative, permettant au sujet non pas de se dire, mais de se construire une identité par des moyens détournés, par des intermédiaires, en premier lieu par l'intermédiaire de l'autre, ici Dora, par ce qu'elle a été, ce qu'elle a pu faire, et grâce à cette figure de l'autre, de s'y associer personnellement, tout en gardant un certain mouvement, sa propre mémoire n'étant pas infaillible. Il s'agit donc d'une entrée dans l'expérience de l'histoire par l'intermédiaire de l'évocation. Je développe. L'évocation permet à Modiano de tracer un lien vers Dora. Évidemment, par là, il ne tente nullement de banaliser le destin tragique de Dora, en lui associant son destin peut-être plus banal, le destin d'après-guerre. Il cherche plutôt à donner de la consistance à une personne évanescente qui autrement disparaîtrait dans les fonds de l'histoire. Plus précisément, l'évocation est une façon de limiter l'apport de la fiction dans sa quête de Dora, puisque Modiano peut miser sur sa propre expérience et créer des liens avec la jeune. Et quand extrapolation il y a, celles-ci sont aussitôt désamorcées par le doute, par l'absence de renseignements, par ses propres incertitudes. Allez. Je vais donner quelques exemples. Le désamorçage des extrapolations, lesquelles permettent en partie de remplir les vœux, atténue leur poids fictionnel et par la même occasion fait entendre la subjectivité propre de l'auteur. Cela peut prendre la forme d'une affirmation aussitôt mise en doute. Par exemple, ses parents ont amené Dora au cinéma Ornano 43 et il suffisait de traverser la rue. Ou bien y est-elle allée toute seule? D'une incertitude pleinement assumée? J'ignore quel uniforme portaient les pensionnaires. Tout simplement les vêtements signalés dans la vie de recherche de Dora. Je devine à peu près les horaires des journaux. ou encore peut-être de l'ordre du parallèle avec sa propre expérience à lui, ce qui permet d'illustrer, évidemment en partie, ses motivations à elle par l'intermédiaire de ses intentions à lui. Qu'est-ce qui nous décide à faire le feu? Je me souviens de la mienne le 18 janvier 1960, à une époque qui n'avait pas la noirceur de décembre 1941. Mais il semble que ce qui vous pousse brusquement à la fuite, ce soit un jour de froid et de grisaille, qui vous rend encore plus vive la solitude et vous fait sentir encore plus fort qu'un étau se resserre. Oui, par ces démarches, Rodiano cherche à obtenir plus de renseignements, plus d'informations factuelles sur Dora, les horaires des journées, son alignement, ses habitudes. Mais le fond véritable de sa quête demeure inaccessible directement, et en fait demeure uniquement accessible par un intermédiaire, c'est-à-dire par des analogies avec sa propre expérience des rurales, de la solitude de certains quartiers et des motivations derrière sa propre vue. Il est d'ailleurs particulier que le narrateur de Voyage de noces, le roman, un adulte, soit en feu pendant pratiquement tout le livre, fuyant ses responsabilités et sa vie, lui remonter le temps et replonger dans ses souvenirs. Cet élément de l'analogie est entre autres subtilement mentionné au détour d'un chapitre sur le pensionnat de 5 heures de la rue qu'a fréquenté Dora. Modiano se désole de n'avoir pu rencontrer la supérieure du pensionnat, décédée 3 ans avant qu'il ne découvre l'existence de Dora. Mais c'est pour aussitôt se demander. Mais, après tout, qu'aurait-elle pu m'apprendre? Quelques détails, quelques petits faits quotidiens? Il est paradoxal d'évoquer le tout sous forme de questions, puisque c'est précisément ce que le travail d'archives et la récolte de témoignages effectuent, obtenir quelques détails ou petits faits quotidiens supplémentaires pour dresser un portrait un peu plus clair de la disparition. C'est pourquoi j'ai mentionné que le fond véritable de la quête de Modiano demeure inaccessible directement. La véritable information recherchée, la phrase qui suit, nous le dit bien. Si généreuse qu'elle fût, toujours parlant de la supérieure fonctionnelle, si généreuse qu'elle fût, elle n'a certainement pas deviné ce qui se passait dans la tête de Dora Brunel, ni comment celle-ci vivait sa vie de pensionnaire, ni la manière dont elle voyait chaque matin, chaque soir, la chapelle, les faux rochers de la cour, le mur du jardin, la rangée de nuit du dortoir. En d'autres mots, ce sont les impressions, les sentiments, tout le vécu de l'intérieur que Modiano tente de retracer et tente de retrouver pour restituer du mieux qu'il peut ce que Dora aura été. Cela n'est évidemment possible que par l'intermédiaire de ses propres souvenirs, de sa propre expérience des lieux et de ses propres vues. Bref, la subjectivité de l'auteur narrateur permet certes de désamorcer les extrapolations, mais cette subjectivité demeure essentielle car elle agit comme un film sous-tendant toute l'entreprise du récit de Rambudel, film relayant également Modiano à la figure d'or. Ce double film est d'autant plus important qu'il permet de contrebalancer l'incertitude actions, pensées et sentiments de Dora, par un certain souci d'exactitude. D'exactitude, par exemple, dans la mention des documents d'archives qui sont reproduits et qui, au fil du livre, occuperont de plus en plus d'espace. Mais souci d'exactitude aussi lorsqu'il parle de ses propres impressions et de sa propre expérience, lorsqu'il évoque ses propres souvenirs. Par exemple, comme ici, le boulevard Mortier est en pente. Pour le rejoindre, ce dimanche 28 avril 1996, j'ai suivi ce chemin. Les mentions de date exacte viennent, en quelque sorte, compenser l'incapacité à vraiment savoir ce qu'a bien pu faire Dora pendant ses fugues, savoir ce qu'elle a pu ressentir dans son quotidien au pensionnat, connaître les exactes dates de ses allées et venues. L'évocation joue ainsi un rôle compensatoire entre la subjectivité connue de Modiano et celle inaccessible de Dora. Par exemple, au détour d'un souvenir de jeunesse, Modiano dit « Vers 14 ans, ce terrain vague m'avait frappé. bagage de terrain vague particulier en cours, gravé dans sa mémoire d'adolescent, sera doublé dès le chapitre suivant, à la page suivante, par ceci. Le 9 mai 1940, Dora Brunner, à 14 ans, est inscrite dans un internat religieux. C'est par l'intermédiaire de sa subjectivité qu'il peut tenter de comprendre l'expérience de Dora. Mais je m'empresserai d'ajouter qu'il le fait sans pour autant atténuer tout le trajet de l'histoire de la jeune fille. Et c'est là un élément très important de l'évocation pratiquée par Montiano. Il le reconnaît lui-même que la mise en relation de leurs deux expériences ne doit pas mener à une assimilation de l'une par l'autre. L'assimilation de l'expérience de droit par la sienne. Et cela est clairement dit. Je reviens à la citation de tout à l'heure. Qu'est-ce qui nous décide à faire une fugue? Je me souviens de la mienne le 18 janvier 1960, à une époque qui n'avait pas la noirceur de décembre 40. L'évocation telle que pratiquée par Modiano, évocation à Platon, comme on peut le voir, transmet les nuances de l'expérience au monde et de l'expérience du monde. L'incertitude n'est pas une tare, n'est pas un défaut, mais plutôt une façon d'être au monde nuancé, jamais figé, jamais synthétisé. Cette absence de synthèse définitive permet, il me semble, de refléter encore mieux la vraisemblance attachée à la mise en récit à laquelle nous allons procéder, préservant l'aspect pluriel et indicible de l'expérience humaine. Dans un monde pressé de catégoriser et de reléguer à l'oubli, maintenir une incertitude grâce au langage et par le langage, tout en voyant dans le rapprochement et l'analogie une possibilité d'ouverture à l'autre, que fait précisément Modiano, permet de rendre compte de certains aspects de l'expérience qui seraient autrement oblitérés. Aspects qui seraient oblitérés, par exemple, avec le document d'archives, mais aussi par la fiction. La mise en parallèle de leurs deux destins, fort différents, il va sans dire, permet à Modiano de combler certains défauts, et sans doute les vides qui représentent à ses yeux les éléments les plus importants dans la reconstitution de Dora la fugueuse, à savoir les vides de l'expérience, les vides des impressions, les vides des sentiments. Certains vides, mais pas tous les vides. J'irais même jusqu'à dire que l'évocation en parallèle manifeste une certaine politique de l'incertitude, laquelle reflète davantage la subjectivité en nuance du sujet, qu'il s'agisse d'un sujet parlant lui-même ou d'un sujet dont on parle. Cette pratique en parallèle a une double fonction. Elle permet de dépasser les capacités des seules archives, droites, et elle permet de désamorcer les libertés extrapolatoires de la fiction. Et bon, elle permet une troisième fonction, évidemment, peut-être la plus importante, sans doute, dans le cas qui nous intéresse, celle de lever le voile de noirceur autour de ce qu'a été Dora, ce qu'elle a vécu, la façon dont elle a vécu ces événements bâtards, qui sont la raison pour laquelle Modiano tente d'en préserver la mémoire. Cela dit, ces ténèbres sont aussi à l'origine de voyages de noces, s'il faut le mentionner. Modiano, ayant tout de suite ressenti la nuit, l'inconnu, l'oubli, le néant tout autour de Dora. Mais les libres extrapolations que la fiction peut prendre lui sont insatisfaisantes pour vraiment toucher au but de sa quête, c'est-à-dire sortir la petite Dora de l'opacité de l'oubli. La fiction n'a pas su rendre compte de la réalité dans toute sa vraisemblance, dans toutes ses nuances, dans toute son incertitude. L'expérience du monde dans sa totalité est inatteignable et il semble que lorsque l'enjeu est d'interroger l'expérience d'une mort à qui une tragédie est vraiment arrivée, pour paraphraser rien, la fiction pure était insuffisante. Modiano reconnaît ce caractère lorsque, à même les pages de Dora Brunner, il effectue un retour sur Voyage en noces. Il dit : Je me rends compte aujourd'hui qu'il m'a fallu écrire 200 pages pour capter inconsciemment un vague reflet de la réalité. Ce vague reflet est celui d'Ingrid. Où Ingrid Persson, le double fictionnel de Dora Brunner, sortant du métro, arrive dans les rues enneigées entourant le grand mentionna 5 heures de mer. Sans le savoir, Modiano met en scène une Ingrid qui arpente le quartier de Dora, ce quartier étant de fait le quartier de jeunesse, de sa jeunesse. Par ce passage, Modiano comprend que c'est en se rapprochant de ce qu'il connaît lui, en termes d'espace et de temps, qu'il se rapprochera le plus d'elle. Et ce, malgré les incertitudes, malgré les et malgré les blancs de l'histoire qui est traumatisée. Il dira d'ailleurs, voilà le seul moment du livre, Voyage de noces, où, sans le savoir, je me suis rapproché d'elle dans l'espace et dans le temps. L'évocation ne se résume plus à un simple procédé de rappel, ce mécanisme narratif de souvenance. L'évocation devient une posture, c'est-à-dire une façon d'être au monde. Cette posture, camouflée dans un premier temps derrière la fiction, Voyage de noces, titre aux airs festifs et heureux d'ailleurs, révélateur de ce qu'elle nous trouve. Cette posture, donc, est pleinement assumée dans nos rapports d'air, où toute extrapolation est matée d'office. Modiano désamorce lui-même ses interprétations et libertés fictionnelles que le récit peut prendre. J'en ai donné quelques exemples révélateurs. Autrement, l'extrapolation sera atténuée par une exactitude du temps et des lieux, comme je l'ai également souligné. Si l'on peut dire à la suite de Bruno Bachmann que le temps flotte, le temps joue dans les romans modernes, il ne semble en être rien dans le récit d'Aura Bruder. L'incertitude est-elle à tant d'égards que ce que Modiano peut récupérer des archives, essentiellement des lieux et des dates, lui est l'occasion d'entrer à son tour dans le détail de ses propres souvenirs. La date exacte où ça fut en 1960, la date exacte à laquelle il s'est rendu consulter telle archive en 1985. Cela est également un déclencheur d'évocations, lesquelles auront pour base ses propres expériences de la fuite, de la ville et de l'adolescence. Ce sont là autant d'échos de sa subjectivité. Il dira, j'ai eu la certitude brusquement que le soir de sa fuite, Dora s'était éloignée du pensionnat et suivant cette rue de la gare de Rennes. Je la voyais plongeant le mur du pensionnat, peut-être parce que le mot gare évoque la fuite. Il demeure significatif que l'évocation soit explicitement mentionnée. Pour qui le mot gare évoque-t-il la fuite? Pour Modiano, bien sûr, qui se rappelle ses propres souvenirs de fuite et de voyage, qui revient presque mal. Même si elle demeure purement subjective, cette certitude n'en contribue pas moins à l'élaboration du portrait de Dora. Les autobiographèmes de Modiano contribuent ainsi à donner une dimension psychologique au personnage de Dora, tandis que les quelques informations sur les possibles allées et venues de Dora permettent à Modiano de les aborder et de les interpréter sous l'angle de l'autobiographie. Cette importance de l'angle autobiographique peut sans doute aussi expliquer l'absence totale de Serge Klarsfeld dans le récit. Modiano et lui ont entretenu un échange soutenu, Klarsfeld l'aidant dans ses recherches, lui offrant tel renseignement, tel récit, tel témoignage. Leurs lettres ont d'ailleurs été reproduites dans le cahier de l'herbe consacré à Modiano, et Klarsfeld s'est désolé de constater son absence après la lecture du livre de Modiano. Cette subjectivité, aussi présente que nuancée, n'est donc pas tant un défaut qu'une qualité pour l'entreprise dans laquelle s'est lancé Modiano. Ces impressions ne sont pas moins valides que les témoignages et documents d'archives pour véritablement entrer dans la tête de Dora, pour dépasser les seuls petits détails quotidiens et pour vraiment comprendre l'expérience de la face de l'emploi, c'est-à-dire l'expérience du vide, du creux ressenti. Cette expérience, Modiano la rend particulièrement palpable, vivante, présente, dans le lieu. Il écrit, on se dit qu'au moins les lieux gardent une légère empreinte des personnes qui les ont habitées. Empreinte, marque en creux ou en relief. Pour Ernest et Cécile Bruder, pour Dora, je dirais, en creux. J'ai ressenti une impression d'absence de vide chaque fois que je me suis trouvé dans un endroit où ils avaient vécu. Ces impressions in absentia sont associées à des impressions bien réelles des lieux, lesquelles transmettent un état d'esprit, un sentiment dont on pensait qu'il soit généralisable avec la chute. Cela ajoute un appui supplémentaire à la valeur de la subjectivité dans un récit qui, a priori, veut renverser la fiction commise dans Voyage à l'Ouest. Et cela démontre en outre que subjectivité et fiction ne vont pas forcément de pair. Je citerai un dernier exemple tiré de Rabudin, lequel me semble bien cristalliser cet enjeu. J'ai marché dans le quartier et au bout d'un moment, j'ai senti peser la tristesse d'autres dimanches dont il fallait rentrer trop anciennement. On constate ici le renversement du fardeau de la subjectivité, puisque c'est le poids d'autres dimanches, le poids d'une tristesse, d'un autre temps, le poids de la tristesse de Dora, qui pèse maintenant sur les épaules de Motien. Ainsi, l'étude de l'évocation dans Dora Bruder permet-elle de mieux voir la place que Modiano occupe dans son propre récit, et de voir par là son expérience d'écriture, de même que sa démarche de souvenance, aussi subjective qu'incomplète. Cette subjectivité et cette incomplétude permettent de remettre en cause la proposition fictionnelle de Voyage de noces, en ouvrant vers une expérience du monde plus vraisemblable et peut-être même plus véritable, parce qu'incertaine. Et si le temps souille et détruit, comme Modiano le dit si bien, dans Dora Bruder, cette souillure et cette destruction peuvent être partiellement compensées en reconnaissant précisément leur présence, c'est-à-dire en tentant pas de créer l'illusion d'un souvenir lisse, d'une archive totale, d'une histoire infaillible qui serait capable d'en aller jusqu'au menu détail. L'abandon de la fiction romanesque permet donc de lever un autre masque d'illusion, lequel pourrait travestir la dette à l'égard des morts et par là faire perdre à l'histoire sa signification, pour reprendre les mots de Ricœur cités au début de mon intervention. Modiano dira dans un pédigré, récit autobiographique paru en 2005. Et les jours, les mois passent, et les saisons. Quelquefois, je voudrais revenir en arrière et revivre toutes ces années, mieux que je les ai vécues. Mais comment? À défaut de pouvoir physiquement revenir en arrière pour revivre le passé, il peut, grâce à l'écriture, revenir en arrière pour nuancer le passé et l'interroger. Le nettoyage par le vide, auquel il a pu prétendre au début des années 90, ne sera assurément pas aussi exhaustif. Mais cela découle sans doute du simple fait qu'il mène, dans toute son œuvre, une lutte incessante contre le plus grand des villes, celui de l'eau.